Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va reprendre les bonnes habitudes. Ce sera le journal de 13h, le rappel des titres avec Amandine dans une seconde. Mais Sarah est déjà là en direct d'Avignon. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous avez suivi Nice-Marseille, vous avez écouté notre débat. Les ultras sont-ils une menace pour le foot ?
Complètement. Complètement.
Eh bien,
c'est inacceptable ce qui s'est passé.
On va développer cette idée, peut-être imaginer des solutions avec vous. Le rappel des titres avec Amandine.
Et justement, cette enquête ouverte par le parquet de Nice après ces incidents hier soir lors du match face à Marseille sur RTL. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, réclame la plus grande fermeté. Elle veut, dit-elle, des sanctions contre les coupables. La Ligue de football professionnel, de son côté, annonce les convocations des clubs de Nice et de Marseille devant la commission de discipline. Dans l'actualité également, la situation toujours difficile à Kaboul en Afghanistan et ce chaos à l'aéroport. Joe Biden, le président américain, n'exclut pas de prolonger la présence américaine au-delà du 31 août. Et puis l'incendie qui ravage depuis plusieurs jours maintenant l'arrière-pays de Saint-Tropez dans le Var est sous surveillance. 400 pompiers restent toutefois mobilisés. Le feu ne progresse plus mais il n'est toujours pas maîtrisé. C'est ce qu'indiquent les sapeurs-pompiers qui sont sur place, Pascal. La météo avec Claire Delorme. Claire, un temps calme, mais c'est toujours pas l'été. Il nous faut une petite veste, un pull.
Exactement, parce que côté température, on est un petit peu juste pour la saison, je dois vous l'avouer, surtout pour la moitié nord. 22, que ce soit à Brest, à Lille ou encore à Metz, 23 degrés à Paris, bon, 25 degrés à Lyon, 24 degrés à La Rochelle, 27 à Toulouse. En revanche, 32 à Montpellier, voire plus localement dans le Var, plus de 35 degrés à l'ombre. Et forcément, on aura encore pas mal de vent cet après-midi, plus de 80 km/h en basse vallée du Rhône, donc je vous invite à l'extrême prudence pour les départs de feu. Sinon, côté ciel, on a quand même un très beau temps, que ce soit vers la Nouvelle-Aquitaine, vers la région PACA, avec un petit peu d'instabilité qui va se déclencher près des reliefs, que ce soit des Pyrénées ou encore au niveau des Alpes et du Mercantour. Partout ailleurs, surtout pour la moitié nord, il va falloir encore composer avec de nombreux passages nuageux, mais je vous rassure, de très belles plages de soleil vont également pouvoir se développer, peut-être à l'exception quand même du Loiret vers la région Grand Est en passant par les Ardennes, où les éclaircies seront un petit peu plus timides avec en prime, il y a quelques averses qui vont pouvoir se déclencher.
Est-ce que mot demain ? Oui, juste un mot.
Un petit mot demain, très simple, encore une dominante nuageuse pour la matinée.
Alors repasser un autre.
mais quand même, les éclaircies vont se développer dans l'après-midi, mais tout de même, je tiens à préciser que pour les températures, on restera encore un petit peu juste et on aura même un ressenti encore plus frais, que ce soit en matinée comme en soirée, puisqu'en fait, on a ce petit vent de nord-est qui va apporter un petit peu plus de fraîcheur, donc en effet, le pull ne sera vraiment pas trop pour cette dernière semaine d'août.
Et ce sera intéressant de voir les statistiques à la fin du mois d'août parce qu'on a le sentiment que le soleil n'a pas brillé, quasiment pas brillé dans le nord de la France. Merci Claire, merci Amandine Bégaud. Il est 13h03, les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et Sarah donc, qui habite Avignon et qui était devant son poste hier soir peut-être, Sarah, ou à l'écoute d'RTL ?
Alors, exceptionnellement, bonjour Pascal. Exceptionnellement, je ne l'étais pas, mais j'ai vu le résumé après.
Parce que c'est dur de voir les matchs maintenant. Il faut être abonné, en l'occurrence, à Amazon, je crois. Donc, ce n'est pas facile pour regarder un match de foot.
Sachant que moi-même, j'ai déjà pas mal d'abonnements. Je n'ai pas rajouté celui-là de vous à moi.
Oui, je crois que c'est 19 euros, c'est ça, par mois,
encore.
Pour avoir droit à voir le match du dimanche soir. Donc, ce n'est pas donné.
Voilà. Exactement. Écoutez, moi, Pascal, évidemment, je suis comme tout le monde. Je suis outrée, choquée. Tous les adjectifs que vous imaginez bien. Moi, ce qui me pose problème, c'est ce qui s'est passé au départ, en fait. Donc, c'est des jets de bouteilles. Donc, ça veut dire qu'au départ, déjà, il n'y a pas eu de fouille, entre guillemets, correcte, parce que moi, je suis déjà rentrée dans les stades, où on nous enlève les bouteilles, où on les vide, ou ce genre de choses. Donc, il y a déjà ce problème-là. La proximité, la proximité, vous l'avez partout. En Angleterre, ils sont encore plus proches. Mais en Angleterre, ils ont, ils ont mis du temps, mais ils ont réussi à éradiquer ces ultras qui n'ont absolument rien à voir avec le foot. Ça, c'est ma façon de penser. Ça me fait rappeler de mauvais souvenirs, notamment ce que je disais à votre collègue tout à l'heure au téléphone. Alors, pas dans le stade, mais en dehors, mais ça aurait très bien pu se passer à l'extérieur. C'est quand l'équipe, par exemple, d'Algérie qui s'est fait canarder dans le bus par des supporters égyptiens, pareil, quoi, qui étaient blessés. Enfin, on est en dehors du foot, ça n'a plus rien à voir.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce phénomène ultra, et sans vouloir stigmatiser ces jeunes gens, c'est parce que, d'abord, ils sont souvent jeunes et c'est souvent des hommes. Oui. C'est vrai qu'ils ont, pour les connaître depuis de nombreuses années, en leur sein, si j'ose dire, une violence qui est inhérente à leur mouvement.
Oui,
c'est par définition, j'ai envie de dire, les ultras sont violents.
Oui, c'est comme. Mais je suis pas d'accord avec vous.
Donc après, on choisit de les dissoudre et de les interdire de stade et dit on ne veut plus ce type de population dans nos stades. C'est une position possible.
Oui,
ça a été fait à Paris également, ça a été fait effectivement en Angleterre.
Ils ont souffert du hooliganisme, mais en Angleterre, c'était quand même très, très important. Ils ont souffert de ça pendant des années. Ils ont
bien sûr.
Et regardez les supporters, ils sont quasiment devant le stade, il y a zéro problème. Ils ont aussi réglé le... Enfin, évidemment, les prix ont été augmentés. Il y a plusieurs manières d'éradiquer ces ultras, entre guillemets, ces sauvages, j'en sais rien, parce que les ultras... Franchement, ultra, moi je suis une fan de foot. Je me considère ultra, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait.
Ce sont des mouvements radicaux, Philippe Sanfour, je disais passionné. C'est deux manières de voir le foot différemment d'ailleurs. Moi je veux bien entendre les deux versions. Il y a des gens qui viennent dans un stade pour voir un match de football, qui sont peut-être un peu supporters, mais qui aiment la qualité du jeu, qui peuvent aimer un joueur, qui peuvent aimer le beau jeu. Oui. Et puis il y a d'autres personnes qui sont radicaux, passionnés et qui ont un rapport, irrationnel parfois avec leur club, voilà.
D'accord, mais quel est le rapport entre aimer le foot et balancer des bouteilles sur un joueur?
Mais je c'est une manière...
Franchement, juste pour me répondre, ne serait-ce qu'à cette question aussi simpliste même, quel est le rapport entre le foot et canarder, par exemple, Payet, là, un point de corner, il aurait pu se prendre une bouteille en verre, ça aurait pu être dramatique, hein. Quel est le rapport entre
Philippe Sanfour, je rappelais qu'il y a eu des supporters qui sont décédés autour du Parc des Princes il y a quelques années.
Exactement. On en a vu plein.
Dans des bagarres, parfois même entre supporters du même club. Donc, entre ultras.
Oui, exactement, parce qu'ils ne se supportent pas, parce qu'ils veulent avoir le monopole, etc. Il faut éradiquer. Maintenant, je ne sais pas si c'est la Fédération française qui doit s'en occuper.
C'est pas simple. Franchement, c'est pas simple.
On n'a pas eu de public pendant longtemps. Là, on en a. On a la chance d'en avoir. Ça commence par une bagarre. La fin de la saison commence bien.
Il y a une solution, et Robin Leproux l'avait faite, l'avait proposée, c'est le placement aléatoire. Donc celui qui prend son billet, il ne sait pas qu'il sera avec les autres. Ça, c'est une solution qui a le mérite d'être efficace. Merci beaucoup, Sarah.
Merci beaucoup.
Vous êtes, c'est un peu historique, Sarah, parce que vous êtes la première auditrice de la cinquième de la saison, de la nouvelle saison, qui commence. Écoutez, des auditeurs ont la parole.
Merci de m'avoir donné la parole et à bientôt, j'espère.
Eh ben, merci beaucoup, à tout de suite.
Merci,
et je salue
revoir,
Damien Béchiot qui va être avec nous également cette année.
Damien, bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
On a une petite tradition que les auditeurs apprécient dans notre émission. C'est un peu de musique de temps en temps et nul doute qu'on entendra Joséphine Baker.
Évidemment, Pascal.
J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Bien sûr,
à tout de suite.
Pas.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Quel plaisir de vous retrouver dans ce jour si particulier.
Plus d'un mois et demi sans vous voir.
Pour vous, Laurent.
Comment allez-vous? Vous êtes bien bronzé.
Bah, écoutez, oui, parce qu'il y a des microclimats, comme chacun sait, dans l'Ouest. Bon, dites-nous tout.
C'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10. Le match Nice-Marseille arrêté hier soir. Des bouteilles en plastique lancées, un terrain envahi. Écoutez les propos du président du club de Nice, Jean-Pierre River, hier soir.
Moi, je suis allé en tribune, j'ai vu mes supporters. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas admissible ce que vous avez fait au niveau des jets de bouteilles, mais par contre, garantissez-moi qu'il n'y aura aucun problème. Ils me l'ont garanti deux fois et pas de souci avec ça. Je sais très bien que le match aurait pu reprendre et tout le monde était d'accord pour que le match reprenne. Malheureusement, les Marseillais n'ont pas souhaité reprendre le match.
Et Pablo Longoria, le président de l'OM, a justifié la décision de ne pas revenir sur le terrain.
Ce qui s'est passé, c'est complètement inacceptable. On a décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qu'ils ont été agressés. Et on a décidé de ne pas reprendre les matchs parce que la sécurité de nos joueurs, c'est pas garanti.
Les ultras menacent-ils le football français? La réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, invitée de RTL Midi.
Il ne peut pas y avoir de tolérance pour de tels actes et je soutiendrai évidemment toute action judiciaire qui sera entamée contre les responsables de ces actes inqualifiables. Je crois qu'aujourd'hui, il faut montrer l'exemple, il faut montrer que ça ne peut pas se produire sur un terrain en France de tels actes de violence.
Avez-vous été choqué par ces incidents? Ces pseudo-supporters de foot vous font-ils honte? Y a-t-il des problèmes de sécurité dans les stades? Faut-il mettre en place de lourdes sanctions? Avez-vous peur d'aller dans un stade avec vos enfants? 3210, 3210 sur votre téléphone.
Et nous sommes avec Fabrice, bonjour.
Bonjour Pascal Praud.
Et merci d'être avec nous Fabrice, vous étiez hier soir devant votre poste ou à l'écoute d'RTL peut-être?
Bah oui, si vous me permettez, déjà, comme vous l'avez souligné, plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison et de nous donner la parole sur l'antenne et avec toute votre équipe. Pour réagir, bien sûr, sur le match, évidemment, j'étais jusqu'à minuit 15 devant mon écran. Alors, je vais rejoindre hein, la ministre des Sports. Je vais rejoindre votre auditrice précédemment. Je condamne fermement la minorité, je dis bien la minorité d'ultra, comme on les considère, qui ont agressé les joueurs sur le terrain. On va pas minimiser, c'est pas pour moi sans précédent. On sait très bien, vous l'avez très bien rappelé, vous êtes un ancien chroniqueur de football. Vous savez qu'à Paris, le COP Boulogne, Auteuil, les Tigers à Lens et dans toutes les équipes, on a toujours des sauvageons, on va dire, mais qui ne doivent pas condamner la majorité des 35 000 spectateurs qui étaient à l'Alliance Riviera hier et qui n'ont pas bougé et attendu les décisions des hautes instances. Maintenant, je pense que des matchs à huis clos, oui, ils en prendront, ça c'est certain. Maintenant, je pense qu'on occulte aussi le fait de la réaction des joueurs marseillais. Alors certes, je vais vous dire, hein, je suis un supporter de Paris depuis 1990 et je ne suis pas anti-Olympique de Marseille. Par contre, la réaction des joueurs marseillais et le self-control qu'ils doivent avoir sur un terrain, ils auraient dû l'avoir. Donc, la réaction du public ou de cette minorité de supporters et de sauvageons ne doit pas minimiser que M. Payet ou M. Alvaro aient répondu à la provocation. Parce que des joueurs doivent garder aussi leur sang-froid. Et j'espère qu'il y aura des sanctions qui seront prises contre eux. Et même
c'est une bonne question que vous posez. C'est une bonne question que vous posez et elle est dure. Parce qu'effectivement, quand tu es canardé comme Payet l'a été pendant une partie du match, le fait qu'il relance une bouteille, je ne sais pas si elle est en plastique d'ailleurs ou en verre. Hein, là.
C'est non, important. Elle est en plastique, mais bon, il est victime.
Oui, mais alors, c'est pas la même chose quand même. Hein, si elle est en plastique, donc il voit qu'elle est en plastique et ça n'a pas la même portée que s'il avait lancé une bouteille de verre. Alors, est-ce qu'il doit être sanctionné pour ça? Bon, moi, je vous pose la question. J'ai pas envie forcément de le sanctionner pour ça et en même temps, ce qu'il fait est répréhensible. Bon. C'est un paradoxe.
Reste un projectile.
Oui, vous avez raison.
Que ce soit un œuf, que ce soit une
machine à laver. Mais une bouteille en plastique, convenez que... Il va tuer personne avec une bouteille en plastique.
Oui, mais vous avez quand même des précédents des joueurs marseillais qui, à peu près il y a 15 jours, même à Montpellier, ont encore été victimes. Moi, je pense que le football aurait dû reprendre sa place. Alors, certes, ils étaient menés au score.
Vous pensez que le match aurait dû reprendre ?
Oui, parce que l'esprit du football...
Et oui, il y a un moment, il faut marquer quand même. Il faut marquer le coup.
Oui, mais il faut marquer, mais si on en est où, là ?
Bah, si vous êtes joueur de l'OM, vous avez envie de revenir sur le terrain ?
Non, parce que leur intégrité était menacée, je suis tout à fait d'accord. Par contre, vous aviez, et moi-même qui suis policier, les feux verts du préfet de police et de tout le staff, parce que ça a duré 1h15 quand même dans la décision, et même le corps arbitral, mais rien qu'au niveau, on va dire, police, préfet, la sécurité était assurée. Vous voyez bien qu'on a tous vu les images.
Oui, mais il y a quelque chose de symbolique à ne pas vouloir reprendre le match et de dire « ça suffit ». Et ça, on peut le comprendre.
Ben malheureusement, alors donc on va aller dans l'avenir. Que va donner le match retour ? Parce qu'il y a toujours un match retour dans un championnat.
Oh, généralement, dans ces cas-là, par expérience, on crie tellement au loup avant que le match retour, il se passe bien. Vous voyez,
on prendra des mesures.
C'est
au
sur
niveau
un autre match que ça peut se passer. Merci en tout cas, Fabrice. Vous êtes en vacances ?
Ben, c'est moi qui vous remercie. Alors, je suis encore une petite semaine en vacances et j'en profite pour saluer ma famille qui m'écoute, mais aussi un bon anniversaire à Laurent Tessier et à toute votre équipe. Et on est reparti pour une année, ça me fait plaisir.
Eh bien, c'est gentil. Puis c'est l'occasion de saluer tous ceux et toutes celles qui ont présenté les auditeurs ont la parole depuis le vendredi 9 juillet. Évidemment, Christelle Robière, mais aussi Agnès Bonfillon, Bénédicte Dattassard, Christophe Paco et Amandine Bégaud qui ont si bien tenu la maison pendant cet été. Merci beaucoup, Fabrice.
À bientôt.
Merci. Guillaume est là. Bonjour Guillaume, qui est chef d'entreprise à Lyon.
Bonjour Pascal, merci de me donner la parole.
Je vous en prie. On est toujours sur ce thème, hein, ce thème de ce qui s'est passé hier soir. Vous avez regardé le match hier soir ?
Oui, j'ai regardé le match.
Donc vous avez Amazon par exemple ?
Ben voilà. Vous avez payé
les 19 euros.
Ben comme, voilà, malheureusement. Alors j'ai Canal, j'ai Bein, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un gros budget.
Non mais ça, c'est intéressant. Donc vous avez Canal, Bein, vous avez Amazon, et vous avez quoi encore ?
J'avais RMC Sport, mais ça, j'ai suspendu l'abonnement.
Donc vous avez quand même trois abonnements pour voir du foot.
C'est, c'est ça, c'est fou d'ailleurs.
Bah oui. Donc ça fait combien les trois abonnements? Et si c'est une, la motivation numéro un, c'est le foot?
Principalement, en tout cas, pour suivre RMC, la Ligue des Champions, etc. Mmh. Pas forcément Canal, mais RMC Sport et puis Amazon, c'est que pour ça.
Bon.
C'est uniquement pour ça.
Vous voyez, on est très fair-play parce qu'on cite même une marque qui est concurrente de celle d'RTL. Mais ces trois abonnements que vous avez, c'est à quel prix, vous le savez?
Bon, c'est plus de 50 euros par mois.
Ouais, donc c'est une certaine somme, donc ça fait 600 euros par
an. C'est un budget de téléphone. Oui,
alors que je rappelle que le foot était gratuit. Hein.
Oui, c'est ça.
Il y a 30 ans. Bon, il y en avait moins aussi à la télé. Bon, Nice-Marseille hier soir, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, moi, comme tout le monde, et ce qu'ont dit vos auditeurs précédents, d'abord, je pense que l'image du football est assez affligeante, et on est loin d'ailleurs du sport. On vient de parler il y a quelques jours de ça, de se réjouir des Jeux Olympiques qui doivent arriver à Paris. On parle de fraternité, de sport, de communion, etc. On est vraiment très loin de ces valeurs-là. Ça, c'est la première chose. On est en période estivale. Il y a des gens qui viennent l'été avec leurs enfants. J'entendais des témoignages, etc. Et c'est ça l'image qu'on va donner à des gamins de ce qu'est le football. Donc, on est plus du tout dans la logique du sport. Ça m'interpelle. Vous avez parlé effectivement du plan Leproux en 2010 qui avait été mis en place. Bon, qui a eu quand même eu des effets extrêmement positifs. Le placement, et puis un autre élément qui aussi peut être vertueux, c'est aussi les ultras, les quelques-uns ou la poignée, les minoritaires qui viennent créer effectivement du conflit, ces gens-là, ils doivent, et je crois que c'est déjà la règle dans certains cas, c'était le cas en Angleterre, pointer au commissariat les soirs de match pour s'assurer qu'ils ne sont pas aux abords du stade pour créer du trouble. Et je trouve ça effectivement navrant qu'on soit dans une situation comme ça, des clubs européens. Voilà l'image qu'on donne du sport et de la Ligue 1 il y a trois jours.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, moi, j'ai l'impression, maintenant, je baisse les bras. Il y a des sujets, on les aura tous dans 10 ans, comme les rodéos, comme les supporters. Ça fait 30 ans que c'est les mêmes choses. Il n'y a pas de raison que ça change. Ça fait
30 ans. En Angleterre, ils ont éradiqué ce phénomène.
Oui, parce qu'en Angleterre, ils ont viré des ultras. Donc, comme ça, c'est simple. Donc, où tu les vires complètement? Et à ce moment-là, tu rentres dans un conflit XXL, c'est ce qui s'est passé à Paris. Il n'y a pas de solution. Tu le vois bien, ça revient régulièrement. Donc,
c'est sûr. Je me dis, dans quelques semaines, là, au mois d'octobre, on va avoir un OM-PSG. Alors, dans les périodes les plus calmes, au mieux, les bus sont caillassés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puis ça pose la question aussi, on va avoir des stades à l'anglaise, avec un public sans barrière, ce qui est très bien, ce qui est très vertueux. Et en même temps, on voit les contraintes. Et puis, comment aujourd'hui on ne met pas assez de moyens pour contrôler effectivement avec de la sécurité à l'intérieur du stade? Et c'est pas normal d'en arriver là. Et c'est vraiment dommage. Et puis, qu'est-ce qui va se passer maintenant sur le tapis vert?
Bon, tout je ça rappelle que Nice navrant. Menait 1-0 quand même. Marseille n'a pas ça. Voulu reprendre. Est-ce que Marseille menait au score, Marseille aurait eu la même attitude? C'est une question qu'on peut se poser. Merci beaucoup Guillaume en tout cas.
Merci Pascal, bonne saison, à très bientôt.
Je vous en prie, nous continuons cette discussion. Alors, il y a d'autres sujets sur lesquels vous pouvez intervenir, bien évidemment, et notamment le pass sanitaire à l'école. Il ne sera pas exigé pour les enseignants comme pour les élèves. Les règlements de compte à Marseille, le trafic des stupéfiants. Ça aussi, c'est un sujet qui nous intéresse. Joséphine Baker, hein, qui deviendra le 30 novembre la 6e femme à entrer au Panthéon. Elle avait eu des obsèques nationales en son temps, Joséphine Baker, quand elle est décédée. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
L'équipe des auditeurs ont la parole, c'est aussi Olivier qui est en régie avec nous pour évoquer les messages sur la page Facebook. Bonjour Olivier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pour Thierry, c'est le service de sécurité de Nice qui n'était pas du tout à la hauteur. Il faut des sanctions financières et le prochain match pour le club à huis clos, nous dit-il. Grégory nous écrit, je ne supporte pas Marseille, mais je peux comprendre la réaction des joueurs. Ils n'ont pas à être agressés physiquement. Et enfin, pour Anne, l'OM en fait trop. Il n'y avait plus aucun risque à reprendre la rencontre.
Bonjour Eric.
Bonjour Pascal.
Eric, vous étiez au match hier, donc ça va être intéressant. Vous habitez Nice et vous êtes dans le domaine de la sécurité.
Oui. Alors oui, c'est...
Pas la sécurité de l'OGC Nice, bien sûr, mais c'est vous êtes un professionnel de la sécurité.
Voilà, je suis un professionnel de la sécurité, donc j'ai un œil plutôt d'expert dans ce domaine. Bon, moi, ce que je déplore là-dedans, Pascal, c'est que on est attendu autant de temps pour pouvoir réintégrer les stades et pour arriver à cette triste désolation. Mais cette désolation, moi, j'aurais tendance à dire, je pousse un peu un coup de gueule là-dedans parce que je crois que tout le monde a sa part de responsabilité, aussi bien le président de Nice, le président de Marseille, les ultras, l'arbitre et le préfet. Donc, si je les prends dans l'ordre, l'arbitre là-dedans aurait dû déjà, dès le départ, stopper le massacre de jets de projectiles et à un moment donné, faire intervenir le club pour pouvoir que ça cesse.
Après, vous avez parfaitement raison.
Voilà, donc après, quand je vois cette désolation, cette agitation, cette désolation, cette agitation de la part du président de l'OGC Nice, il se satisfait de ses supporters. Excusez-moi, Pascal, mais là, enfin, je ne vois pas comment on peut se satisfaire de ses...
Parce qu'il est otage de ses supporters. Parce qu'il fait de la démagogie, parce qu'il ne veut pas leur entrer dedans, comme on dit.
Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, je suis d'accord avec vous. Et s'il se met à dos les supporters, c'est clair qu'il part en guerre, vous l'aviez parfaitement bien dit. Mais aujourd'hui, est-ce que dans le système de vidéosurveillance qu'on a dans les stades, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'identifier ceux qui mettent le désordre? Donc, à un moment donné, on peut partir en guerre contre ces gens-là. Voilà, donc et il faut mettre un cadre rapidement là-dessus. Voilà, donc je comprends pas. Voilà, donc on peut faire de la l'autosatisfaction. On peut éviter de partir en guerre, mais là, je crois qu'il fallait pas le faire. Là, il fallait dire vous avez mal fait. Tant pis. Tant pis pour le reste, mais il faut pas prendre de supporters pendant un certain temps,
c'est marrant parce que je sais que c'est difficile. Moi-même, parfois, je confonds et je dis supporters parce que on est tellement habitué à ce que le mot. Voilà, ce sont pas des supporters. C'est ça. Faudrait en fait arrêter avec ce mot parce que ce sont des ultras, donc qui pourrissent parfois la vie des clubs et qui pourrissent la vie des stades et qui rendent et qui empêchent parfois d'autres spectateurs, pour le coup, de venir au football, des gens qui n'ont pas envie de se retrouver dans une bagarre ou mêler comme ça un spectacle qui n'est pas très, très fair-play ni très agréable à voir. Stéphane est là et on va le prendre parce que c'est le président d'une association d'arbitres. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Et merci. Oh, j'ai l'impression que vous êtes loin là, Stéphane. Ah bah, vous êtes tellement loin qu'on vous a perdu. Donc, Eric, on peut peut-être, avant de retrouver la liaison avec Stéphane, faire une petite conclusion avec vous sur ça. Oui. Parce que, est-ce que les ultras doivent être sanctionnés? Mais est-ce que ça doit aller au-delà de ça? Est-ce que la brigade des ultras de Nice doit être dissoute? C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu dissous. Comme ça, t'es tranquille après.
Mais bien évidemment, pourquoi? Pour arriver à ce stade-là, moi, Pascal, c'est pas, je parle d'un aspect financier, mais c'est pas, je veux dire que je vais au stade pas pour ça. Quand je paye pour venir au stade avec mon fils pour avoir une bonne place et que je paye plus de 190 euros les deux places, c'est pour regarder un match. Voilà. Et
190 euros les deux places?
Oui.
Mais pour quel match?
Si on veut bien placé. Pour le match d'hier soir.
Vous avez payé 190 euros hier soir pour deux matchs, pour deux places.
Oui, pour deux places, oui. Mais bon, quand on veut être bien placé...
Donc vous avez payé 95 euros la place.
Oui, un peu, on doit être à 88 ou 90, je ne sais plus exactement.
Mais c'est une fortune.
Mais
j'espère que vous étiez bien placé, vous pouvez être sur le terrain à ce prix-là.
Oui, j'étais quasiment...
Mais c'est la place la plus chère.
On est derrière les joueurs là, voilà.
Bah, écoutez, et vous y allez régulièrement ?
Non, je vais voir que les grands matchs. Je vais pas voir tout le championnat. Donc voilà, mais bon, c'est pas l'aspect financier, c'est que quand je vais voir un match, je voudrais voir un match entier, pas un,
oui, bien sûr,
pas
bien
un
sûr.
Match comme ça.
Oui, d'ailleurs, vous avez raison, parce que vous serez pas remboursé dans ces cas-là. Le match est arrêté, vous serez pas remboursé.
Oui, mais voilà, mais tant pis, voilà, mais là encore. Je dis, mais pourquoi le président dit que la sécurité est véritablement encadrée alors que le stade est envahi?
La raison, elle est claire, hein, il ne veut pas se mettre à dos ses supporters, donc il manque de courage, tout simplement.
Oui, le préfet, il aurait dû dire stop, on arrête là. Mais si
vous demandez au préfet de prendre. Personne n'est très courageux dans ces cas-là et personne ne veut prendre la décision, bien sûr. Merci beaucoup, Eric. Et c'était un plaisir avec vous. On va être avec Jérémy dans une seconde. Il est 13h28. C'est le retour des auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 parce que l'émission évidemment a existé pendant tout l'été. Vous pouvez nous appeler pour parler du temps également. Quel temps, quel été vous avez vécu? Est-ce que c'est... J'ai entendu beaucoup de gens disent « Ah, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ça, vraiment j'ai jamais eu ça ». Est-ce que cette phrase est juste ou est-ce que régulièrement, dans l'Ouest ou en Normandie, parfois il fait un été comme celui-là? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Fessier.
Nous vous attendons au 32-10 sur d'autres sujets. Il n'y aura pas de passe sanitaire à l'école pour les élèves et les enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale a jugé ni légitime, ni souhaitable, ni utile de l'exiger. Il préfère miser, je cite, sur une logique de confiance et de responsabilité. Alors, le gouvernement a-t-il peur d'une fronde des professeurs? Donnez-nous votre avis au 32-10. Comment finir avec les règlements de compte à Marseille, le trafic de stupéfiants? 3 hommes ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche, 4 jours après la mort d'un adolescent près d'un point de vente de drogue. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et candidate à l'élection présidentielle, était l'invitée d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
D'une manière générale, il va nous falloir un choc d'autorité dans le pays. Un choc d'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police de proximité doit être généralisée. La police de proximité, c'est la police municipale. Moi, je propose que dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, on rende la police municipale obligatoire et que l'État transfère aux communes les moyens pour ce faire.
Que pensez-vous de cette proposition? A-t-on abandonné certains quartiers? 32-10, nous attendons vos témoignages dès maintenant.
Et nous sommes donc avec Jérémy, qui est éducateur sportif du côté de Nantes, pour peut-être conclure sur ce sujet Nice-Marseille et conclure sur ce sujet ultra.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
J'en profite pour vous souhaiter une bonne saison.
Écoutez, c'est gentil, je vous la souhaite également excellente. Vous travaillez en ce moment ou
Non, je suis encore en vacances. La reprise, c'est pour la semaine prochaine.
Êtes éducateur sportif?
Tout à fait, c'est ça. Hein. Je travaille dans une structure de sport, fitness, remise en forme, avec des activités fitness aquatique. Et puis j'ai la chance d'être formateur également dans une école de sport.
Et vous avez pris combien de vacances?
Là, j'avais 3 semaines.
Vous êtes resté dans la région?
Oui. Hier, j'ai fait une petite virée à Rennes, justement, là, pour le foot. Mais beaucoup de petites sorties dans la région qui nous ont permis d'apprendre aussi à profiter des beautés de notre région dans l'Ouest, dans le Maine-et-Loire, dans le Loire.
Et vous avez trouvé du soleil de temps en temps?
Il a fallu le chercher. Non, il y a eu quelques belles journées. C'est surtout les températures, moi, je pense qu'on a.
C'est un peu frais le soir. Le soir, il faut une petite laine. On aimerait le soir être un peu en t-shirt et le soir, il fait quand même 17-18 degrés.
Exactement.
Donc, ça caille.
Il faut mettre une petite
laine. Si vous
laine,
permettez ce mot un peu trivial. Bon, on termine donc avec vous sur Nice-Marseille. Est-ce qu'il faut faire la conclusion, les débats et les sanctions? Pourquoi pas?
Ben oui, je pense que là, ce qu'on a vu hier, c'est inadmissible. Encore une fois, ça donne une image piètre du football. Moi, j'ai pris le temps d'appeler là au standard. C'était simplement parce que j'ai entendu au début de l'antenne, vous étiez avec une auditrice et il y avait des difficultés parfois à expliquer un peu le phénomène ultra. Alors, vous vous êtes bien placé, vous êtes supporter de Nantes. J'ai 40 ans cette année. Il y a une quinzaine d'années, j'étais membre à Nantes de la Brigade Loire. Alors je sais que vous avez connu des fois des hauts et des bas. Maintenant, j'ai 40 ans, je suis père de famille. Il m'arrive d'emmener mes enfants au stade, j'emmenais mes enfants à la Beaujoire. Je prends un petit peu de recul, je suis dans une tribune plus familiale, plus populaire. Mon appel était simplement pour préciser aujourd'hui qu'est-ce qu'un ultra. Il faut bien faire la part des choses parfois entre un ultra et un hooligan. Un ultra, c'est quelqu'un qui va vivre sa passion pour le football de façon, effectivement, vous l'avez dit, parfois démesurée, irrationnelle. En général, c'est quelqu'un qui va vivre sa passion pour le foot au-delà même de cette équipe-là. Moi, je connais des supporters ultra. Ils seraient presque incapables de vous donner la composition de l'équipe ou la feuille de match. Par contre, ils ont une connaissance en général de leur ville, de la culture du club, qui est très développée, qui est très poussée, parce que ils ont le sentiment, on a le sentiment d'être héritier d'un passé, d'une histoire. Alors, moi, à titre personnel, un club comme Nantes, vous le connaissez très bien, Pascal, le passé et l'histoire du club est tellement riche et tellement, je dirais, glorieux que nous avons une envie, peut-être un besoin de vouloir maintenir les quelques dorures du passé de ce club. Alors parfois, il est vrai que quand il y a des rivalités qui s'installent, ça peut aller loin, ou certains supporters s'identifient comme le dernier bastion de l'identité d'un club. Alors, cet amour et cette passion, c'est comme dans toute chose humaine, parfois est démesuré. Alors, ce qu'on a vu hier soir, l'enquête va être menée, c'est souvent une poignée d'individus. Et je le sais, ça m'est arrivé d'aller des fois au stade en ayant bu un coup ou deux, comme tout le monde, ça fait partie du côté populaire de notre passion pour le foot. Là, il y a des gens qui vont parfois un peu trop loin et qui sont alcoolisés. Et alors, se provoque un phénomène de meute, de groupe, où là, l'individu s'oublie parce qu'il fait partie d'un collectif qui, et ça part en vrille, avec une étincelle en général. Et je pense qu'hier, c'est ce qui s'est passé, mais ça ne doit pas être tolérable. Donc il doit y avoir une culture qui doit évoluer là-dessus, parce qu'on peut aimer son équipe, on peut aimer son club, mais on ne doit pas exprimer de l'agressivité ou de la haine exacerbée vis-à-vis de l'adversaire.
Ben vous avez tout dit. Vous avez dit parfaitement les choses. Merci beaucoup, Jérémy. Bonne reprise la semaine prochaine. Le programme cette semaine ?
Cette semaine, vacances, un petit peu de sport quand même pour se remettre en jambes.
Il va faire beau, a priori, dans l'Ouest. En tout cas, ça peut pas être pire que ces derniers jours.
Non, ça devrait aller cette semaine.
Donc, et puis, il y a un avantage quand même dans l'Ouest qu'il n'y a pas partout. C'est que dans une journée, quand vous êtes au bord de l'océan, ça change. Vous voyez, tout d'un coup, vous avez une possibilité de soleil entre 16 et 18 heures. Donc, les gens s'appellent, ils disent « Attention, le soleil arrive !» Vous voyez,
oui, il fait beau trois fois par jour là-bas.
Voilà, mais non, mais c'est vrai. Par exemple, à Paris, t'as pas 36 temps dans la même journée. Il fait ou très beau ou très moche toute la journée. L'avantage quand t'es dans l'Ouest, c'est que ça change, vous voyez, et qu'il y a tous les temps possibles. Je vous dis pas qu'il fait chaud, mais en tout cas, on peut guetter le soleil. Et donc, faut pas désespérer. 13h36, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
J'ai peur que le public le plus jeune ne connaisse pas forcément Joséphine Baker, parce que dans la mémoire collective, elle n'a pas la place, par exemple, d'Edith Piaf. Moi, je la connais parce que j'étais effectivement enfant lorsqu'elle est décédée. Elle était assez présente dans les médias, mais son image, peut-être, c'est évaporé, si j'ose dire, ces dernières années. C'est étiolé, plus exactement. Donc, c'est bien de parler de Joséphine Baker, de tout ce qu'elle a fait. C'est une résistante tout à fait remarquable, et de son entrée au Panthéon.
Oui, l'artiste franco-américaine deviendra le 30 novembre la 6e femme à entrer au Panthéon, engagée dans la résistance, vous l'avez dit, militante antiraciste. Elle est l'incarnation de l'esprit français, a déclaré l'Élysée. Quels sont vos deux amours, cher Pascal ?
Bah, écoutez, je vais regarder des questions de la vie privée pour soi cette saison, si vous le souhaitez, cher camarade. Mais professionnellement, j'ai deux amours. Mon pays est pareil, comme vous.
C'est beau.
C'est tout ?
Oui, c'était tout.
Ah oui, vous vouliez pas dire autre chose.
C'est court.
Bon. Donc, vous savez, ce qui est quand même extraordinaire, c'est simplement la 6e femme au Panthéon. Oui. On voit quand même la culture, là, pour le coup, patriarcale qui est la nôtre. Et depuis toujours, il n'y a que 6 femmes, et c'est la 2e femme que nomme Emmanuel Macron, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire, l'entrée au Panthéon. C'est le président de la République qui décide seul l'entrée au Panthéon. Donc ça sera le 30 novembre, hein, je crois.
30 novembre, exactement.
Alors, nous allons parler à présent du pass sanitaire à l'école. Il n'y en aura pas pour les élèves et les enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale a jugé ni légitime, ni souhaitable, ni utile de l'exiger. Il préfère miser, je cite, sur une logique de confiance et de responsabilité. Alors, enseignants, d'abord, vous pouvez donner votre avis. C'est vrai que ça nous a surpris, parce que pour entrer dans un restaurant, dans un café, on doit tous avoir le pass sanitaire et on ne demande pas aux profs de l'avoir dans leur classe. Donc ça, ça fait partie des choses qui peuvent étonner. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Vous êtes directeur d'école primaire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah écoutez, je pense que c'est une bonne chose.
Pourquoi ?
Qu'on n'exige pas. D'abord pour les élèves, parce que la plupart des parents avec qui j'ai pu m'entretenir, même durant les congés, là, seraient plutôt inquiets qu'on l'impose aux élèves.
Non, mais les élèves, c'est autre chose. Moi, je suis d'accord avec les élèves. Pour tout
dire, pour les enseignants.
Mais les enseignants, mais vous êtes par exemple pour le pass sanitaire au restaurant ?
Bah écoutez, j'ai changé un peu d'avis. Mmh. Au départ, voulant reprendre une vie plutôt normale, j'étais vraiment attaché voilà, à ce qu'on puisse se présenter. Et puis au fil du temps, je vois que ça crée quand même quelques petits problèmes pour les restaurateurs, etc. Et que bon, globalement, de plus en plus de gens se font vacciner. J'ai l'impression qu'en faisant confiance, les gens vont sans doute petit à petit... aller vers une vaccination et qu'on aura...
Non mais j'entends bien Nicolas, mais on ne peut pas être pour le pass sanitaire au restaurant et contre le pass sanitaire des profs dans une classe. Là, il y a quelque chose pour moi, me semble-t-il, qui n'est pas cohérent. Donc on est ou pour toujours ou contre toujours.
Ah non, là, ça, pour le coup, ça serait ou tout blanc ou tout noir.
Bah, non,
quel est, moi, le pass sanitaire à l'école...
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que si on veut que le virus ne circule pas, on est pour le pass sanitaire partout, et vous verrez que ça arrivera dans l'entreprise.
J'étais en train de vous dire qu'au départ, j'étais pour, mais j'ai changé un peu d'avis. Et je pense que bah, à l'école, malheureusement, si on l'impose, il y a à peu près 70-15% des enseignants qui sont ou vaccinés ou avec une première dose. Si vous l'imposez, bah, dans la loi et la loi française, et puis au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant, le droit à aller à l'école est...
J'ai pas dit pour les élèves, moi, j'ai dit pour les profs. Hein.
Non, mais justement, si vous imposez le pass sanitaire, les 25 ou 30% de profs qui pourront pas travailler feront qu'il y a des enfants qui ne pourront pas aller à l'école.
Oui, j'entends bien. J'entends cet argument, c'en est un, effectivement. Mais vous allez voir, et je le répète, que le pass sanitaire, la question va se poser dans l'entreprise. Parce que c'est toujours pareil, c'est des logiques. Où on est pour tout le temps, me semble-t-il, hein, où on est contre tout le temps. Donc, mais... où on considère que le pass sanitaire au restaurant, moi, je n'ai pas donné mon avis, forcément. Je peux être étonné que le pass sanitaire existe, notamment en terrasse. Ça me paraît très étrange, mais bon.
C'est pour ça que je vous dis que j'ai changé d'avis.
C'est le moment. Et j'ai vu également qu'il y avait des bracelets bleus maintenant dans les trains.
Certains... Alors moi, j'ai pris le train la semaine dernière deux fois, j'ai pas eu de bracelet.
Mais... Ah, bah oui, mais alors, il y a des expérimentations qui sont faites, notamment sur la ligne de Bordeaux. Hop, il y a quelqu'un qui arrive, il vous met un bracelet bleu. Et vous n'avez pas intérêt de dire non. Je vous assure, hein, il y a quelqu'un, ça s'est passé devant moi, qui a dit « Mais moi, je veux pas qu'on me mette de bracelet bleu. » »« Bah oui, mais on va vous contrôler tout le temps. » »« Bah très bien, vous pouvez me contrôler tout le temps, » a dit cette personne. « Mais moi, je veux pas de bracelet bleu. » Alors, ça, c'était symbolique, parce que bon, parfois, quand on rentrait dans des boîtes de nuit, quand on était gosse, on nous mettait un bracelet aussi, hein, et puis on hurlait pas. Donc tout ça est du symbole. Mais bon, en tout cas, vous êtes prof, quoi, directeur d'une école primaire. Il y a combien de profs dans votre école ?
Nous sommes 8, 9.
Bon, est-ce que les 9 sont vaccinés ?
Oui.
Bon, donc là, il n'y aurait pas eu de problème.
Ben non. Et puis globalement...
Vous êtes vacciné vous-même ?
Tout à l'heure, à votre collaborateur, oui, je suis vacciné parce que au départ, pas forcément... La question, en fait, elle ne s'est pas posée, et mes collègues non plus. C'est-à-dire qu'on n'avait tellement pas envie que l'école puisse éventuellement être à nouveau fermée, que des élèves puissent rester chez eux, que même deux de mes collègues qui étaient un peu récalcitrants 30 au départ, on finit par dire ben non, on peut pas en même temps vouloir garder les écoles ouvertes et ne pas aller se faire vacciner.
Bah, c'est difficile si on n'est pas vacciné d'avoir une vie normale, quoi. On peut pas aller
au café, donc... Moi, je connais pas ou peu d'enseignants autour de moi. Bon, je dis peu parce que peut-être qu'il y en aurait un ou deux, mais pas à ma connaissance pour le moment. Tout le monde se fait vacciner.
Ça a été une incitation, le pass sanitaire. Moi, j'avais pas forcément prévu de me faire vacciner pour plein de raisons, parce que bon. Et puis quand Emmanuel Macron a parlé le 12 juillet, bah le 13 juillet, je me suis fait vacciner. Voilà, parce qu'autrement tu rentres plus nulle part, tu fais plus rien.
Non, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire.
Et je pense que beaucoup de gens ont dû avoir le même raisonnement que moi, sans doute.
Oui, et puis c'est pas uniquement pour pouvoir aller au restaurant que les enseignants se sont fait vacciner. Je crois que la plupart de
pour aller dans un théâtre, pour aller dans un cinéma, pour aller dans un café, ouais, pour aller partout.
Non, je crois. Oui, mais je crois aussi que la plupart d'entre nous a envie de pouvoir accueillir ses élèves la semaine prochaine dans les meilleures conditions possibles et que on puisse éventuellement éviter tous ces confinements et ces élèves qui restent chez eux en fait.
Bah merci Nicolas, on va être avec Benoît qui est prof de maths dans un instant. C'est bien d'avoir des profs parce qu'ils sont évidemment les premiers concernés. Je disais tout à l'heure, si vous pouvez évoquer le temps, ça c'est un sujet qui me passionne toujours, la météo. Et comment vous avez vécu cet été, notamment si vous avez le sentiment que, vous savez la fameuse phrase « Ah monsieur Cini !» Monsieur Cini rentre dans le bureau. Bonjour monsieur Cini.
Bonjour monsieur Pro.
Je vous ai écouté ce matin,
auditeurs.
Ça va bien ?
Très bien, impeccable. Vous je suis ravi de vous retrouver.
Très bien, on va parler de la météo. Vous étiez où en vacances ?
Ah, j'ai eu de la chance moi.
Ouais, vous étiez dans le sud ?
Dans le sud.
Ah bah oui, mais évidemment, mais dans l'ouest.
C'est-à-dire qu'on a plus de chances d'avoir beau temps dans le sud quand même. Hein.
Ça, c'est statistiquement, voilà. Je le confirme. Bon, mais donc je parlais aux auditeurs et je leur demandais, vous savez la phrase qu'on dit parfois, j'ai jamais vu ça.
Bon, ouais, chaque été, on dit ça.
Pas chaque été.
Ah, souvent.
Eh bien, les gens de l'Ouest, on leur demande de nous appeler. Et là, c'est Seigneur Météo de Carlos.
J'aime beaucoup.
Bon, il y a du nouveau pour vous cette année ?
Ah, bien sûr, tous les soirs, 18h40, 19h, on défait le monde. Nouveau rendez-vous quotidien, du lundi au jeudi, dans le nouveau 18h de Julien Cellier. Il nous accueillera avec Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. On va s'informer de l'information sérieuse, mais sans se prendre au sérieux toujours. On
donc Julien, de 18h à 18h40.
Non, 18h à 19h15.
Julien, de 18h à 19h. Et à 18h40, vous êtes chez lui.
On s'incruste.
D'accord.
Avec mon équipe.
Bien sûr.
Et ça va être formidable.
Votre équipe.
C'est la mienne.
Bon, et si Marseille hier soir n'était pas mené à zéro, vous pensez qu'il
ne fallait pas reprendre le match. Non mais je ne comprends même pas qu'il y ait des VAR. 13h40... Victoire 3-0 sur tapis vert pour l'Olympique de Marseille.
13h47, à tout de suite. Chacun sait que Cyprien Cini est marseillais, bien évidemment, dans la petite communauté des auditeurs d'RTL. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Claire.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Damien Béchu est réalisateur avec nous. Damien qui a pris le chemin de fer l'autre jour à Lyon.
Fait.
Et on vous a proposé le petit bracelet.
Le bracelet bleu pour éviter de faire la queue au portique.
C'est fou ça. Alors qu'est-ce que vous avez dit ?
Je leur ai dit non, que je montrerai mon flashcode.
Ah oui, parce que c'est pour accélérer, pour contrôler plus vite.
C'est ça, pour éviter qu'il y ait de la queue et que les gens, que tout le monde puisse rentrer dans le train.
Mais vous en avez fait une question de principe. Vous avez dit je veux pas me balader avec un bracelet.
Non, je vois pas forcément l'intérêt. En fait, vu que j'ai mon.
L'intérêt, c'est d'aller plus vite. Mais il y a quelque chose de comment dire. Humiliant, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est vrai qu'on nous prend un peu pour voilà, c'est comme les animaux, on va nous mettre quelque chose sur l'oreille
c'est
un jour. Bon, mais je peux comprendre, et en même temps, c'est toujours 14h. Le rappel des titres avec Alexandre de Saint-Aignan.
La menace des talibans, il y aura des conséquences si les États-Unis retardent leur départ, affirme leur porte-parole. Aucun gouvernement ne sera constitué en Afghanistan tant qu'il restera des soldats américains. Alors que Joe Biden, sous la pression de la communauté internationale, n'a pas exclu désormais de laisser des troupes sur place plus longtemps que prévu. La France a déjà évacué plus de 1000 Afghans grâce au pont aérien depuis le 15 août. Ce matin sur RTL, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a plaidé contre la inconditionnel des Afghans en France. La candidate à la primaire de la droite souhaite privilégier l'accueil des personnes déplacées dans les pays frontaliers de l'Afghanistan. L'OGC Nice et l'Olympique de Marseille convoqués devant la commission de discipline de la Ligue suite aux incidents qui ont interrompu le match hier soir. La justice a ouvert une enquête. Des supporters avaient envahi le terrain après un énième jet de bouteilles en plastique lancé sur le Marseillais Dimitri Payet. Un départ à la retraite difficile à digérer ce matin. Didier Raoult a accusé le nouveau directeur général des hôpitaux publics de Marseille d'être là pour faire le ménage. Le professeur Raoult, actuel directeur de l'IHU Méditerranée Infection, devrait quitter ses fonctions à la fin du mois. Il a atteint l'âge de la retraite. L'APHM ne souhaite pas le prolonger. 400 pompiers restent mobilisés dans le Var pour surveiller les éventuelles reprises de l'incendie qui a déjà fait 2 morts et brûlé plus de 7000 hectares. En parallèle, la Grèce est à nouveau touchée par des incendies sur l'île de Bé où 50 000 hectares là avaient brûlé déjà il y a 2 semaines. Les autorités grecques préparent une évacuation de la population par bateau. La météo pour demain en France, du soleil sur une grande partie du pays, parfois après dissipation des grisailles matinales. Ce sera plus nuageux en revanche de l'est du Rhône à la Corse avec des averses et même éventuellement des orages. Les températures 21 degrés à Lille demain, il fera 22 à Reims, 24 à Paris, 26 à Nice et 27 degrés à Marseille.
Merci monsieur de Saint-Aignan, il est 14h02.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole, on va repartir avec un auditeur bien sûr, même si je sais que Flavie Flamand, qui nous écoutait, va intervenir dans quelques instants pour nous donner des informations précises sur Jour J, qui commence aujourd'hui de 20h à 21h sur l'antenne d'RTL. Mais on est avec Elisabeth, qui est une maman au foyer, qui habite la Moselle, et cette question du pass sanitaire à l'école, qu'en pensez-vous ? Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe, et puis un bon anniversaire à Laurent.
Bien sûr, qui fête ses 21 ans.
On dira ça.
Bien sûr.
Bon, ben moi, écoutez, pour le pass sanitaire, s'il n'y a pas de pass sanitaire pour les établissements scolaires, ça ne me dérange pas. Par contre, c'est vrai que le fait de dire que les enfants vaccinés puissent rester en présentiel, ben, je vais peut-être paraître égoïste pour certains, mais ça ne me dérange pas du tout.
Ben oui,
voilà. Parce que quand je vois l'année scolaire, les années scolaires, comment elles sont passées depuis l'année dernière. Franchement, c'est vrai que là, je vois ma fille, dès qu'elle a pu se faire vacciner, elle, c'était juste pour ça, se faire vacciner, c'était parce qu'elle pensait à son année scolaire. Elle dit, vu ce qui s'est passé l'année dernière, elle dit, si je suis vaccinée, que ça nous permet de rester en présentiel, elle dit, moi, d'accord, je saute sur l'occasion. Et donc, c'est vrai que nous, on espère que le fait d'être vacciné, ça permette aux élèves de suivre une année. On va nous dire, oui, c'est vrai, c'est pas cool, etc., ça fait des inégalités, bah, mais on laisse quand même au départ le choix aux gens, on vous laisse le choix de vous vacciner ou pas, ben après, il faut assumer les conséquences. Donc, le pass sanitaire, s'ils le mettent, eh ben, ce sera un résultant de... On va quand même dire que...
Non, mais c'est une société, vous voyez, qui est alors pour le coup à 2 vitesses. Il y a quelque chose de choquant. C'est-à-dire que si l'enfant est vacciné, ben, il reste. Vous rendez compte, même la responsabilité pour les parents de ne pas avoir choisi de faire vacciner son enfant pour des raisons qu'on peut comprendre. Et donc, ce gosse, il n'aura pas le droit d'être à l'école et il va subir une forme d'humiliation, de sanction, alors qu'évidemment, il y est pour rien et tout ça parce qu'il n'est pas vacciné.
Mais écoutez, la société à l'heure actuelle, c'est comme ça. Hein. C'est malheureux, mais on aura beau vouloir essayer de changer.
C'est pas exactement comme ça, c'est liberté, égalité, fraternité, notre devise.
Ouais, mais ça fait depuis longtemps que la fraternité, elle a disparu en France. Hein.
Oui, mais...
La liberté, pareil, donc à mon avis, c'est bien beau de vouloir toujours revenir à ça, mais ça fait belle lurette.
Moi, je trouve que symboliquement, c'est marrant, parce que même le gouvernement, je trouve que symboliquement, c'est un peu choquant de dire... de discriminer comme ça, de dire les enfants vaccinés, vous restez dans l'école, les autres, vous rentrez chez vous. Bon, je vous assure, ça peut être assez violent, Elisabeth, mais restez avec nous. Et j'avais dit que l'ami Flavie était là. Et alors, je suis très triste et très gai en même temps, Flavie, parce que d'habitude, Flavie, on faisait un petit passage d'antenne, comme on dit, à 14h30. Vous arriviez dans le studio, je vous voyais avec une robe jaune, une robe verte, etc. Vous dansiez, quelque chose de joyeux. Non que je ne me réjouisse pas de la présence de Jean-Alphonse Richard.
Mais il mettra ses robes aussi. Hein.
Mais convenons que ce n'est pas le même emploi, voyez-vous. Bon, c'est quoi Jour J à 20h ?
Écoutez, j'étais tellement heureuse d'entendre vos voix tous les deux là tout à l'heure et je souhaite plein de bonnes choses évidemment à Jean-Alphonse pour cette heure du crime désormais à 14h30. Ça faisait 11 ans qu'on était là et maintenant on donne rendez-vous à nos auditeurs à 20h. Jour J, c'est une émission de récit. J'avais très envie de partager encore avec les auditeurs ce qui fait notre mémoire collective. Donc on va revenir, si vous voulez, sur des grands événements de l'actualité qui nous auront tous marqués. On va les décrypter, on va essayer de mieux comprendre et puis on va raconter
raconter des histoires.
Et ce soir, c'est quoi ?
Alors ce soir, on va parler de la monarchie britannique qui a tremblé lorsque Harry et Meghan ont décidé de renoncer à leur rôle au sein donc de la famille royale. On va parler aussi cette semaine du discours de Martin Luther King. On parlera également de la chute des Balkany prochainement, de la découverte du Titanic, de Britney Spears. Donc voilà, on va être très variés. Et après avoir écouté les histoires de nos auditeurs pendant 11 ans, j'avais envie de leur en raconter. Et je suis très... Vous m'écouterez, hein ?
Mais non seulement je vous écouterai, mais je trouve que le programme est extrêmement alléchant.
Ouais,
j'imagine que vous aurez des invités pour étayer,
oui,
et pour commenter cette actualité que chacun connaît. Ce sera une sorte de retour sur une actualité connue de tous.
On sait tous ce qu'on faisait à certains grands moments de l'actualité et de l'histoire. On a tous vécu l'histoire de notre petite fenêtre. Eh bien, on va la repartager tous ensemble, tous les soirs, de 20h à 21h. Et je suis vraiment super, super heureuse de cette nouvelle aventure.
Eh bien, voilà. Moi, je trouve que c'est formidable, en tout cas, votre aventure, comme vous dites, parce que vous avez fait plein de choses dans ce métier. On s'est connus il y a de nombreuses années. Vous faisiez de la variété. Voilà, mais c'est vraiment, c'est formidable de pouvoir faire des choses différentes. Et comme le public vous suis toujours, Flamie, et ben je vous souhaite, vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, pour cette nouvelle aventure.
Oui,
et bien on vous le dit vraiment de tout cœur, 20h ce soir,
merci.
Flavie Flamand, avec ce joli titre, Jour J.
Hein, je vous embrasse et pensez à moi, hein, je penserai à vous tous les jours. Hein.
Bien, ah bah, je vous savez,
je pourrais plus vous martyriser et tout.
Ben je le regrette, vous savez que c'est un peu mon tropisme. Il est
14h07. Je vous embrasse.
Il est 14h07, il nous reste une vingtaine de minutes. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et c'est donc Olivier qui a la page Facebook qui guette les réactions.
Exactement, Pascal. Et pour Alex, le gouvernement est complètement à l'ouest. Arrêtons de prendre en otage les enfants pour contraindre les parents. Ludovic nous dit protocole par-ci, protocole par-là, mais aucun n'est réellement applicable. Tandis que pour Elisabeth, il est parfaitement adapté à la situation. Mon fils rentre cette année en CM1 et ça me rassure, nous dit-elle. Et on termine avec Eric qui nous dit que le port du masque chez les enfants, notamment en primaire, c'est juste inadmissible.
Ben merci, merci Olivier. On était avec Elisabeth, maman au foyer. Votre enfant a quel âge, Elisabeth ?
Elle va aller sur ses 17 ans.
Bon, elle est vaccinée ?
Oui, elle est vaccinée.
C'est ce que vous nous disiez. Vous êtes vaccinée aussi ?
Oui, toute la famille est vaccinée.
Toute la famille est vaccinée. Vous êtes vaccinée à quel vaccin ?
Moi, j'ai le mix. J'ai l'AstraZeneca première dose, deuxième dose, le Pfizer.
Bon, et votre fille ?
Les deux doses Pfizer.
Il n'y a eu aucun effet secondaire ?
Rien du tout.
Tout le monde se passe bien. Personne n'a eu le Covid chez vous ?
Si, on a eu quelqu'un qui a eu le Covid et qui est malheureusement on est décédé.
Dans votre famille ?
Oui.
Ah oui, effectivement.
Donc c'est pour ça que, effectivement... Oui, à partir du moment où on se sent...
Ça vous a influencé plus fortement peut-être qu'une autre famille française.
Non, mais déjà l'année dernière, dès qu'ils avaient commencé à parler, qu'ils faisaient des recherches, nous avec mon mari et l'infirmière, on avait dit, dès qu'il y a un vaccin, nous, on fonce. Mais je me dis toujours, j'aurai un cancer, on essaierait un traitement expérimental pour moi, moi je fonce aussi.
Oui, mais alors, pardonnez-moi, là, c'est pas la même chose, Elisabeth. La difficulté... Mais non, c'est pas la même chose.
Dans la finalité, si.
Mais Elisabeth, quand t'as un cancer... C'est l'affaire bénéfice-risque.
Oui.
Tu es déjà malade. La difficulté de ce vaccin, enfin, on l'a dit, redit, c'est que tu demandes à des gens qui n'ont aucune probabilité, sans doute, de terminer en réa, ou une probabilité tellement infinitésimale qu'elle existe peu, par définition, tu leur demandes de se faire vacciner. Tu leur demandes de se faire vacciner pour le bien commun, pour les autres, pour protéger la société, alors qu'eux ne sont pas en risque. C'est pas du tout le cas du cancer, mais ça peut s'entendre,
cet argument. On peut voir, par exemple, aussi pour le vaccin de la rubéole. On fait bien de vacciner nos garçons contre la rubéole, nos enfants. Et pourtant, eux, ils n'ont aucun risque. C'est bien pour protéger aussi les autres.
Mais je veux dire, on ne sort pas de ces deux volontés difficiles à concilier, protéger les autres et respecter les consciences.
Ouais,
comment accorder la santé pour tous et la liberté pour chacun?
Oui, mais c'est ça le problème quand j'entends les gens, souvent les personnes qui sont opposées à la vaccination, etc., on les entend toujours, c'est moi je. Oui, d'accord. Moi, je n'ai pas de risque, etc. Mais je me suis quand même fait vacciner pour penser au reste des autres, aux autres personnes. Moi, ça me ferait quand même bien caguer de contaminer quelqu'un parce que j'avais une forme asymptomatique et d'être responsable de gros problèmes de santé d'une personne.
Mais Elisabeth, ce qui est terrible au fond dans ces sujets, c'est que tous les arguments s'entendent. Et oui, tous les arguments même sont excellents. Et les arguments de la liberté individuelle, de la liberté de conscience, je les entends. J'entends quand une mère me dit « moi, je ne veux pas faire vacciner mon enfant de 12 ans, c'est absolument hors de question ». Non seulement c'est son choix, mais j'entends ces arguments.
Oui, oui.
Je les entends. Parce qu'une mère, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Mon gosse, il n'a aucune probabilité d'aller en réa, et je prends quand même le risque d'effets indésirables qu'il puisse avoir, voire davantage avec un vaccin. Ce qui est objectivement vrai, il y a toujours un risque quand tu fais quelque chose, quand tu fais un acte médical. C'est objectivement vrai. Donc j'entends ça et je suis démuni. Parce que ces arguments
s'entendent. Et puis maintenant, on est devenu une société qui n'accepte plus le... Il faut un risque zéro. Donc c'est sûr que ça va devenir de plus en plus problématique.
Ah oui, mais je vous signale que, pardonnez-moi, c'est la position que vous défendez, Elisabeth.
Ah
ben
non, 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 non.
Bah vous
non,
êtes tous vaccinés, pas... vous dites, vous, les vaccinés doivent rester en classe et les non-vaccinés rentrent chez eux. Et à la fin de la conversation, vous me dites, oui, mais on est dans une société où on veut le risque zéro. Mais c'est vous qui la voulez, cette société.
Non, 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 on s'est vaccinés, nous, c'était pour protéger notre famille. C'est pas pour la preuve, on a bien accepté de se faire vacciner alors qu'on n'avait aucun... On a, comme tous disent, on n'a pas de recul, etc. On a bien pris le risque. Donc nous, on n'est pas pour le risque zéro. Sinon, on n'aurait jamais voulu se faire vacciner.
Bon, en tout cas, merci Elisabeth de cet échange. Et puis, la rentrée, c'est lundi prochain.
C'est mardi.
Mardi.
Donc, mardi après-midi.
Donc elle rentre en terminale, là, votre fille, sans doute ?
Non, en première, elle rentre.
En première, à 17 ans.
Et oui.
Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Elisabeth. Raphaël
merci
est là.
Merci bien.
Raphaël
bonne
est
journée.
Prof de droit, alors. Oui. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, Pascal.
Vous êtes prof de droit, donc en université, forcément.
Absolument, absolument. À Clermont-Ferrand, club du Clermont Foot, que j'espère vous suivez.
Ah ben, vous, attendez, non seulement je vous suis, mais vous faites des malheurs en ce moment.
10 matchs consécutifs, dont quelques-uns de préparation, 8 victoires, 2 nuls.
Oui, et puis vous avez l'accent, un peu. L'accent de Clermont.
Absolument,
c'est l'accent
absolument.
De Clermont. Il n'est pas facile à retranscrire.
À
mais moi, j'adore cet accent. À chaque fois, je le dis, cet accent, il est très particulier. L'accent de Lyon aussi, un peu. Aimé Jacquet avait un peu cet accent-là. C'est tout,
c'est
à,
ça, c'est ça.
Tout à fait
c'est
formidable. Ça. Bon, ça c'est nous ça. Éloigne de ce pourquoi vous nous appelez.
Alors,
sanitaire.
Non, non, non. L'école, Pascal, c'est un sanctuaire. L'école, c'est un sanctuaire.
Oui.
Et aux portes de l'école.
On a le droit de transmettre le virus.
Non, mais les gens qui l'ont. Non, mais les gens qui l'ont. Ma femme dirige.
Je veux dire, l'école, c'est un sanctuaire. Le restaurant, non. Mais l'école, on a le virus aussi, c'est un sanctuaire pour le virus. Il s'arrête.
Le virus, il s'arrête à la porte.
Il s'arrête à la porte de la fac de droit, le virus. Il dit, je rentre pas parce que c'est un sanctuaire, parce que Raphaël me l'a dit.
Non, non, mais c'est vrai que l'université, bon, c'est autre chose. Nous, on n'a encore pas de. Pour ne rien vous cacher, on n'a encore pas de consigne. On est à 10-15 jours de rentrée, on n'a même pas de consigne, à part que notre ministre a dit, il faut que tous les étudiants soient là. Une fois qu'on a dit ça, on a dit plein de choses et pas grand-chose. Mais pour ce qui est des établissements secondaires, là, on est quand même dans un sanctuaire. On ne va pas aller avec un pass sanitaire, on ne va pas filtrer. Puis je suis un peu désolé de faire du droit, mais dans la Constitution, les enfants ont droit à un enseignement public, laïque, obligatoire. C'est marqué dans la Constitution. Ouais. Donc, pas de pass sanitaire. Alors après,
non,
qu'on
mais incite les gens... J'entends, etc., mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée. J'entends là aussi, les arguments sont excellents, comme toujours, parce que ce que vous dites est juste. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'il y a quelque chose d'incohérent à demander un pass sanitaire pour entrer au restaurant et pas de pass sanitaire dans un amphi où les gens vont être les uns sur les autres pendant 3 heures à écouter un prof.
Mais oui, mais je donne aussi
vous pouvez. Oui. On peut en parler pendant des heures, hein, tous les deux.
Oui,
mais
moi, j'aime
bon.
Pas avoir en plus des étudiants masqués, parce qu'on a parfois des étudiantes charmantes et on les voit pas avec ces masques. Alors moi, comprenez, c'est quand même dommage.
Mais le masque, il est obligatoire en amphi ou pas ?
Ah, c'est-à-dire que là, on sait encore pas, mais je pense que dans les salles, il le sera. Et dans les amphis, ça va être nouveau, parce qu'on n'a pas retrouvé encore nos étudiants en amphi, pour tout vous dire. On les a perdus depuis quasiment un an.
Oui, mais là dans les amphis, c'est... On sait toujours pas si c'est amphi ou...
Non, mais alors que je... Pascal, notre chère Madame Vidal s'est réjouie de deux choses, qu'on soit 23e dans le classement mondial des universités, alors que les Anglais sont dans les 10, peu importe. Et deux, elle dit qu'il faut que tous les étudiants soient là.
À part ça, j'attends.
Si mon c'est quand la rentrée universitaire?
C'est dans une quinzaine de jours, à peu près.
Mais dans le temps, jours, c'était plus tard que ça. Nous, on rentrait le 15 octobre.
Oui, mais maintenant, on rentre un peu mi-septembre, parce que c'est plus ramassé, c'est plus séquencé. Mais on a toujours pas, on en aura, mais vous savez, le secondaire, ils viennent d'avoir les consignes à 10 jours de la rentrée. Quoi,
vous, vous travaillez pas en ce moment?
Non, enfin, je travaille toujours, c'est un peu de recherche. Hein. On publie des articles. Hein, je suis en train de faire un article sur la charia, vous voyez. Hein,
d'accord. Donc, quand on est prof de droit, vous avez terminé quand les cours?
Moi, j'ai terminé au mois de début avril, à peu près fin mars, début avril.
Et vous reprenez le 15 septembre.
Voilà, mais entre-temps, j'ai
des... Oui, vous avez fait des recherches.
Oui, et puis il y a les rapports, on fait soutenir les rapports.
Bien sûr. Vous connaissez le mot du général de Gaulle.
Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent.
Ouais. Voilà, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Oh, mais tous les collègues font un peu de boulot quand même, on fait notre travail.
Enfin, je vous taquine un peu, mais c'est vrai que... Combien d'heures de cours par semaine?
Ah ben ça varie, on va dire une dizaine.
Une dizaine d'heures. Mais non, mais je souris, pardonnez-moi, hein, parce que je suis taquin. Je suis d'humeur.
Si vous commencez l'année en n'étant pas taquin.
Je suis d'humeur taquine, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vous entendent dire avec une certaine désinvolture, parce que vous en jouez un petit peu quand même, Raphaël, que vous avez arrêté les cours en avril, que vous reprenez le 15 septembre, que vous avez 10 heures de cours et que vous faites un article sur la charia. Donc effectivement, on a envie de vous dire, vous n'êtes pas débordé. Moi, on a envie de vous dire ça.
J'essaie de faire. Je suis les matchs de foot aussi, c'est un métier tout ça.
En tout cas, vous êtes l'humour et ça c'est bien. Merci Raphaël. Voilà.
À bientôt et continuez comme ça. Merci.
C'est votre quantième rentrée simplement, Raphaël.
Eh bien, c'est ma pas loin de 25 là, mais faut pas le dire plus. Ça reste entre vous et moi.
Non, mais c'est bien. Et faut nous appeler de temps en temps parce que vous êtes sympa.
Eh bien, écoutez, on va continuer. On va le faire. On le fait de temps en temps, mais c'est pas toujours facile.
Hein, je trouve que dans cette émission, il faut des gens sympas. Voilà.
Aussi. Ah oui, parce que si faut, voilà, on la se vie, prend en sérieux, on peut rire de tout, mais pas que n'importe qui. Vous savez que
je, hein, ça, c'est pas mal. Je suis d'accord, Raphaël. Donc, et puis, vous avez un joli prénom en plus. Donc, appelez-nous, parce que ça, vraiment, c'est sympathique. Il y a un peu de sourire dans l'émission et un peu de dérision et d'autodérision même. C'est important.
À plus.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ah, il était sympathique notre ami Raphaël. On est avec Cédric, qui est consultant en paye. Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal.
Et on parle du protocole, bien évidemment, du pass sanitaire à l'école. Il n'y en aura pas pour les élèves ni pour les enseignants. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'en pense que j'ai un petit garçon là, qui rentre au CM1 et au final, on repart de nouveau avec le masque.
Ah oui, ça c'est terrible, je trouve. Je suis d'accord avec vous.
Donc, c'est vraiment incroyable.
Oui, je suis d'accord.
C'est vraiment incroyable parce que
c'est horrible,
là, on sort de l'été, donc on arrive à la rentrée. Pendant 2 mois, il n'a pas mis le masque. Hein, et croyez-moi qu'il ne le vivait pas spécialement bien de mettre le masque toute l'année. Et lui, il ne le supportait pas, le masque. Mmh. Hein, donc c'était dur. Hein. Le matin, honnêtement, il avait des haut-le-cœurs en y allant. Il ne voulait pas aller à l'école. Des fois, c'était... Voilà. Hein. Et là, c'est reparti. Je ne lui ai même pas dit. Hein. Honnêtement, il est parti en vacances chez papy-mamie hier soir. J'ai vu que c'était tombé, qu'il y avait le masque. Ça n'a pas de sens. On se fait vacciner. On est presque 65% à être vaccinés. Et on va recommencer à mettre le masque pour les enfants en primaire. Ça n'a pas de sens. Hein. Sachant que si on va chez nos voisins, par exemple, moi je parle des Belges, il n'y a pas de masque. Hein. Et pourquoi chez les Belges il n'y a pas de masque et en France on met un masque? Non mais sérieusement, ça n'a pas de sens en fait. Hein. Donc il y a plein de choses qui sont incohérentes. Donc je veux bien qu'on essaye de mettre des choses en place, mais le masque pour les enfants, par exemple, je trouve que c'est d'un ridicule
achevé.
Je suis sûr que 90% des enfants n'ont pas mis de masque pendant l'été. Et
non, puis, mais je partage votre avis. Je partage votre avis parce que effectivement, ce masque symboliquement, notamment, ce qui est incroyable, c'est la double peine, c'est-à-dire que tu es vacciné. Tu as le pass sanitaire et en plus, il faut que tu gardes le masque. Donc, c'est vrai que ça devient compliqué. Et notamment le masque à l'extérieur, dont on nous dit qu'il ne sert à rien. Mais enfin, bon, on a déjà dit ça tellement de fois à ce micro qu'on ne va pas on va pas le répéter une nouvelle fois. Bon, c'est la vie.
En rejoignant un peu Raphaël hier, moi je suis abonné au SMS et le préfet d'Amoselle hier, vendredi, a donné l'obligation du masque aux abords du stade, quoi. Donc obligatoirement hier de nouveau, on était dans le stade avec nos masques, quoi. Encore une fois. Et là, paradoxalement, les enfants n'ont pas besoin de le mettre.
Oui.
Donc vous voyez, encore un paradoxe de plus.
Bon, merci en tout cas Cédric. Et Elodie est là et c'est intéressant parce qu'Elodie, elle est prof. Elle est prof en primaire. Et bonjour Elodie.
Bonjour Pascal.
Votre rentrée va se passer comment? C'est la semaine prochaine?
Oui, c'est ça. On vient de savoir que c'est donc le protocole numéro 2. Donc, après, moi de toute façon, j'ai envie de dire que j'ai même plus envie d'avoir un avis parce que ça ne sert à rien, on ne le demande pas. Donc moi je suis réalignée, je fais avec ce qu'on me dit. Après je prends le positif, je me dis qu'au moins les enfants pourront le retirer dehors dans la cour de récré. Voilà, ce qui n'a pas été le cas la plupart du temps l'année dernière. Et c'était bien triste de les voir aussi avec leur masque dehors en cour de récré. Donc bon, voilà, même si je rêve du moment où ils n'auront plus besoin de le mettre.
En voilà, primaire, c'est-à-dire que là, c'est en CP
moi j'ai des CE1.
CE1. D'accord. Alors c'est vrai qu'en maternelle, il n'y a pas le masque, nous sommes d'accord, mais à partir du CP, c'est masque obligatoire pour les enfants. Mais vous étiez pour ou contre le pass sanitaire dans les classes et pour les profs?
Sincèrement, moi j'aurais été beaucoup plus rassurée qu'il y ait le pass sanitaire pour les profs. On a entre 15 et 30 enfants tous les jours avec nous dans la classe. Je pense que ce serait déjà rassurant pour tout le monde de savoir que...
Même pour les enfants?
Ah non, pas pour les enfants.
Non, uniquement pour les profs.
Pour les adultes de l'école.
D'accord.
Ouais. Après, moi, je pars du primaire, donc j'ai forcément des enfants qui ont moins de 12 ans. Et donc, forcément, les enfants vaccinés moins de 12 ans, non. Par contre, les adultes, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas demandé à tous les adultes qui travaillent dans les écoles de se faire vacciner. Ça me paraît juste logique, mais pourtant, ça ne l'est pas.
Vous êtes vacciné vous-même, donc. C'est ce que je comprends.
Oui.
Et vous avez le sentiment que tous vos collègues, les collègues par exemple dans l'école dans laquelle vous êtes, je ne sais pas combien il y a de profs dans l'école dans laquelle vous êtes?
Beaucoup, une quinzaine.
Une quinzaine, et ils sont vaccinés?
Mais pas tous, après chacun son choix. Le souci c'est qu'on oblige les gens qui sont en contact du public dans le privé à se faire vacciner. Nous on va quand même avoir entre 15 et 20 enfants et en plus qui passent 6 heures par jour avec nous. Plus, après, voilà, les salles des maîtres, on sait très bien qu'on est à proximité, on passe du temps ensemble, on touche les mêmes choses, la photocopieuse, même s'il y a le gel. C'est sûr qu'on prend des risques.
Alors, visiblement, on a progressé quand même sur les informations sur la maladie et ça ne se transmet pas forcément par les objets touchés. C'est plus un virus respiratoire qui se transmet par les particules. Si là encore, j'ai bien saisi tout ce qui se dit depuis un an et demi, mais je crois avoir compris ça.
Après, il faudrait que les collègues pas vaccinés, s'ils sont dans l'état d'esprit de ne pas être vaccinés, qu'ils soient aussi dans l'état d'esprit de mettre au moins leur masque correctement, parce qu'en général, ça va de pair, malheureusement.
Merci Elodie, on ne va pas perdre les bonnes habitudes dans cette émission. Voilà. L'année dernière, il avait commencé avec le débrief, ça a été un des grands succès de la saison 2020-2021. Il revient en deuxième année, toujours à la même heure, à 14h25. C'est le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir ce midi dans l'émission. Le match Nice-Marseille arrêté hier soir, des bouteilles en plastique lancées, un terrain envahi. Coup de gueule de Sarah.
Je suis comme tout le monde, je suis outrée, choquée. Quel est le rapport entre aimer le foot et balancer des bouteilles sur un joueur?
Fabrice est policier, il a pointé du doigt aussi le comportement de celles et ceux qui ont participé à ces incidents.
Je condamne fermement la minorité, je dis bien la minorité d'ultras, comme on les considère, qui ont agressé les joueurs sur le terrain. On a toujours des sauvageons.
Mais attention mesdames, messieurs, la révélation du jour vient de Benoît, professeur de mathématiques en lycée.
Faire un calcul sur la question de la machine, Pascal. L'an dernier, 3 plus 4, ça faisait 12.
Mais non ! Une réaction, oui, Pascal !
Non, personne n'a arrêté, personne n'a dit ça.
Arrivé en seconde, dans une
interro, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui vous a dit 3 plus 4, ça fait 12 ?
Oui. C'est pas ça ?
Alors que ça fait 13, quand même.
C'est cela, oui. C'est cela,
on a encore du travail dans l'émission et cette année, comptez sur nous aussi pour poser les questions sensibles. Vos deux amours, cher Pascal.
Écoutez, on va garder des questions de la vie privée pour soi cette saison, si vous le souhaitez.
Et pourtant, il y a eu un petit message ambigu après 14 heures de Flavie Flamand qui présente ce soir sa première de jour J.
Pensez à moi, hein, je penserai à vous tous les jours. Hein.
Yeah, bah, je pourrais
plus vous martyriser et tout.
Bah, je le regrette, vous savez que c'est un peu mon tropisme.
Et devinez aussi quel est le sujet préféré de Pascal.
Quel été vous avez vécu ? Est-ce que c'est... J'ai entendu beaucoup de gens disent « Ah, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ça, vraiment jamais eu ça. »
Et la météo vous passionne tellement que vous nous faites un petit bulletin, analyse.
Il y a un avantage quand même dans l'Ouest qu'il n'y a pas partout, c'est que dans une journée, quand vous êtes au bord de l'océan, ça change. Vous voyez, tout d'un coup, vous avez une possibilité de soleil entre 16 et 18 heures. Donc les gens s'appellent, ils disent « Attention, le soleil arrive !» Vous voyez,
oui, il fait beau trois fois par jour là-bas.
Et puis cette saison, un petit nouveau qui partage mon état capillaire, c'est-à-dire rien sur le crâne.
Je salue Damien Béchiot qui va être avec nous également cette année.
Damien Béchiot, notre réalisateur, est là. On sent, Pascal, que vous profitez de sa première pour placer votre petite envie.
On a une petite tradition hein, que les auditeurs apprécient dans notre émission. C'est un peu de musique de temps en temps.
Alors, on vous suit cette semaine. Je vous propose un objectif pour cette saison tous ensemble. Allez, débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une dernière mission pour cette nouvelle saison qui démarre.
Une publicité, Jean-Alphonse Richard arrive, l'heure du crime.